wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Caroline Châtelet, Fabienne Pascaud et Philippe Chevillier pour parler ensemble de Les élucubrations d'un homme frappé par la grâce, texte et mise en scène d'Edouard Baird, à voir en ce moment au Théâtre Antoine. Qui a tué mon père, texte d'Edouard Louis, mise en scène et jeu Stanislas Nordet, en ce moment à l'affiche du Théâtre National de Strasbourg. L'amour en toutes lettres, question sur la sexualité à l'abbé Violet, d'après le livre de Martine Sèvres-Grand, mise en scène Didier Ruiz, en ce moment au Théâtre de Belleville. Et puis il y aura un coup de cœur de Philippe Chevillier pour Amour et Psyché, d'après Molière, mise en scène d'Omar Porras. Nous ouvrons cette dispute avec Les élucubrations d'un homme frappé par la grâce, texte, mise en scène, Edouard Baird, jusqu'au 22 juin au Théâtre Antoine à Paris. Sa dernière création théâtrale à Edouard Baird était à la Française en 2012 et manifestait une envie évidente de troupe. On avait revu Edouard Baird sur scène, mise en scène par Bernard Murat dans une pièce de Fabrice Roger Lacan, puis dans une reprise, encore une, du pédigré de Patrick Modiano, mais cela faisait donc 7 ans qu'il n'avait plus créé de spectacle. Voici presque seul en scène, presque car Christophe Ménet est souvent présent et dans un rôle de peu de répliques. Avant de parler de ce spectacle, votre sentiment, un premier sentiment, Fabienne Pascaud, pour résumer l'impression que vous allez développer dans un instant.
Beaucoup de grâce, beaucoup de charme. J'ai été quasiment envoûtée par ce quasi-monologue d'Edouard Baird.
Caroline Châtelet.
Alors, c'est une performance d'acteur sur le fil qui est assez touchante.
Philippe Chevillier.
Un mix improbable de saillies absurdes et de lectures mélancoliques qui convainc à l'arraché.
À l'arraché. Bon, Edouard Baird nous précise très vite que son spectacle joué dans le théâtre d'à côté débute par une citation du discours de Malraux lors de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Le goût du discours politique, Edouard Baird l'a depuis longtemps. Nous en parlions ensemble dans mon émission Radio Libre. C'était en 2010.
De deux façons, c'est évidemment qu'il y a une théâtralité dans la politique. Enfin, plus avant, puisque maintenant la télévision, c'est le contraire du théâtre, puisque c'est un plan moyen, la télévision, voire un plan serré, alors que le théâtre, c'est en pied. C'est bon. Mais la politique autrefois, enfin en tout cas la politique des tribuns, des orateurs, est évidemment théâtrale. Moi, je méfie un peu toujours du grand raccourci, ou du « ah, c'est des grands comiques, les politiques et tout ça ». Moi, je trouve pas ça très intéressant. Ce qui est plus intéressant, il me semble, c'est le rapport entre l'action et la communication, et de s'apercevoir qu'aujourd'hui, l'action n'est qu'un moment de la communication. C'est-à-dire qu'on est arrivé d'une action sans communication, puisqu'on se rappelle les premiers discours de De Gaulle, il avait encore ses lunettes, il lisait son texte. Et puis petit à petit, la communication s'est emparée de ça, il faut faire entendre ce message. Et puis petit à petit, elle l'a quasiment remplacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre l'action politique et la communication politique, c'est comme deux enfants qui suivraient des chemins qui ne sont plus parallèles. Vous voyez ce que je veux dire? La communication n'est plus là pour améliorer le discours, mais pour raconter une autre histoire quasiment. Et aujourd'hui, quand on parle de Sarkozy, on ne commente plus du tout la politique, on commente sa communication. Est-ce qu'on aime la communication? Est-ce qu'on aime l'image de Sarkozy? Est-ce qu'on aime l'image qu'il nous donne de la France? Donc on s'est fait complètement piéger.
Voilà, c'est une autre époque dans laquelle nous replonge Edouard Baird. On va voir qu'il y a différentes époques, mais pour mieux comprendre, Fabienne Pascaud, de quoi se compose ce spectacle? Comment est-ce qu'il est construit, ce spectacle? Il paraît qu'il ne faut pas trop en dire, a demandé l'attaché de presse Alain Ichoux à certains d'entre nous.
Eh bien, déjà, c'est un spectacle qui s'est fait à l'arraché, parce que la comédie de Sébastien Thierry n'avait pas si bien marché que ça. Donc, quand il a fallu la faire jouer par d'autres comédiens que Valérie Bonneton et Danny Boone, ils ont préféré que Stéphanie Bataille ait une intuition, elle a préféré qui est la directrice artistique du lieu, a préféré demander à Edouard Baird un spectacle plutôt que de reprolonger la pièce de Sébastien Thierry. Donc il a eu 2 mois, il a relevé le gant, en homme plein de panache qu'il peut être, et il a construit ce spectacle comme il l'explique à partir de ce titre improbable, les élucubrations voilà, d'un homme touché par la grâce. Et je pense que Il avait déjà fait ça dans son film Ouvert la nuit. Il joue avec le théâtre, il joue avec le métier d'acteur qui le terrifie et le fascine à la fois. Donc là, c'est l'histoire d'un, assez drôle d'un comédien qui s'échappe d'un autre lieu parce qu'il a cru voir un regard inquiétant et pas très gentil d'un spectateur. Et donc, c'est tous ces délires, ces angoisses, ces stress, pourquoi il fuit, avec des coups de chapeau à la littérature, à Thomas Bernhardt, à Camus, à Bukowski. Et puis, cet incroyable discours de Malraux, qu'il ose dire derrière un bar, l'arrivée des cendres de Jean Moulin. On croit que c'est pas possible que Édouard Baird va pas faire ça, entre deux blagues au téléphone où il ressuscite la voix de Jean-Pierre Mariel et celle de Jean Rochefort, où il imite Jacques Maillan. Eh bien si, il y arrive et il n'est pas ridicule, il dit André Malraux à merveille.
Caroline Châtelet, premier sentiment alors un peu plus développé maintenant sous ce spectacle d'Edouard Baird.
Alors, en fait, ce spectacle, c'est vrai, il s'intitule « Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce », mais il aurait aussi tout aussi bien pu s'intituler « Dernier bar avant la fin du monde ». Ce titre, ce second titre, donc c'est celui du spectacle dans lequel Édouard Baird fait irruption, donc parce que le comédien s'enfuit d'un théâtre et déboule sur la scène du Théâtre Antoine, où il y a donc un décor de bar, et où là, il va se retrouver face à un personnage qui est à la fois acteur, technicien, et où Édouard Baird est en fuite, il est en prise à la panique. Et c'est vrai que les deux spectacles fonctionnent et où en fait il ne va cesser un peu pendant tout le spectacle de balancer aussi entre les deux tempéraments peut-être de ces deux titres. Le premier intitulé qui le fait paniquer parce que tout à coup il réalise le côté peut-être pompeux ou prétentieux de cet intitulé. Et l'autre intitulé que lui-même va aussi tourner en ridicule, qui est peut-être plus absurde ou trivial. Et donc, tout au long du spectacle, c'est vrai qu'Edouard Baird, il alterne entre des moments d'improvisation, où il fait en somme du Edouard Baird, chose qu'il fait extrêmement bien, et des moments très légers aussi, où il va beaucoup chercher les rires des spectateurs, et d'autres moments où il nous donne donc des textes, et où il nous balade entre des textes d'auteurs d'auteurs, ça va de Romain Gary, Thomas Bernhardt, Albert Camus, Charles Bukowski ou encore André Malraux. Et donc c'est vrai qu'on a comme ça un passage incessant de la gravité au burlesque, de la mélancolie à la légèreté. Vous disiez Fabienne Pascaud qui jouait avec aussi le théâtre et le métier d'acteur. Et c'est vrai que dans cette alternance-là, ça raconte aussi les paradoxes du comédien qui doit sans arrêt peut-être soit faire rire ou séduire, ou en tout cas emporter un auditoire, alors que lui, il est en prise à des préoccupations plus intimes, plus mélancoliques, plus graves. Et il y a aussi quelque chose qui se dessine dans le choix des textes des auteurs. C'est-à-dire que la majorité des auteurs qui sont choisis, des textes qui sont choisis, ce sont des auteurs qui ont produit des textes autobiographiques et qui produisent une critique de la société dans laquelle ils s'inscrivent.
Philippe Chevillier.
Alors moi, c'est vrai que je disais à l'arraché parce que on est convaincu à l'arraché parce que, en fait, dès le départ, quand il apparaît et quand il arrive sur scène et qu'il raconte cette histoire de je me suis trompé de théâtre, enfin pas je me suis trompé de théâtre,
je me suis enfui.
Je me suis enfui du théâtre et parce que j'arrivais pas à dire mon texte. Et puis là, au fait où je suis, il va y avoir un spectacle. On se dit, oulala, mais qu'est-ce qu'il nous raconte et comment il va tenir là-dessus, comment il va rebondir, surtout qu'on sait déjà qu'il va nous donner des textes. Et donc, dans ce moment-là où il arrive à nous faire rire dès le début, avec quelque chose d'assez improbable, on se dit bon, on va être tout le temps dans ce déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui est beau, parce que bon, il faut le dire, à un moment c'est quand même écrit un peu à la va-vite, il y a des liaisons qui sont quand même sur pas tellement en fait les chaque partie, c'est-à-dire que les parties comiques et les parties graves sont réussies, mais il y a juste le passage de l'un à l'autre qui est parfois un peu tiré par les cheveux, et on se dit oulala, il va y avoir un crash, et pas du tout, parce que il arrive à se rattraper, et à chaque fois dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il se rattrape dans le comique, on est vraiment saisi du rire, et dans la gravité, parce que comme disait Fabienne, la façon dont il dit le entre ici Jean Moulin, alors que c'est vraiment un texte qu'on aurait pu imaginer même tiré vers le comique parfois, parce que c'est galvaudé, parce que il le fait extraordinairement bien. Ce passage, moi, que j'adore, qui m'avait fait presque pleurer chez Loupa, des arbres à abattre de Thomas Bernhardt, où il nous le dit avec une forme de fièvre et en même temps cette humanité. Bon, il a tout compris des textes qu'il est en train de dire, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est des textes qu'il aime, mais il les joue très très bien. Donc sur ces deux tableaux, il réussit parfaitement, avec un charme Le public, alors ça arrive avec d'autres comiques, avec d'autres grands acteurs, mais le public est vraiment hypnotisé parce que il répond vraiment bien. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il nous fait une forme de parodie du vaudeville, des entrées, on claque en une porte, les gens applaudissent comme au boulevard, c'est spontanément. À un moment donné, il y a une guignolade, mais je décris pas la scène puisqu'il faut pas trop en dire. Je ne raconterai pas tout pour une fois. Et le public, il joue le jeu. Et lorsque il passe au moment justement de la gravité, il y a un silence dans la salle. Finalement, ça fonctionne très bien. Mais à chaque fois, quand même, je me disais, mais comment va-t-il retomber sur ses pattes? Il retombe toujours sur ses pattes jusqu'à la fin. Donc c'est comme ça qu'on est conquis par ce spectacle.
Il y a à la fois un problème de riche, si je puis dire, parce que le public est acquis d'avance. On sent très bien que quand Édouard Baird pénètre dans la salle, c'est vraiment à la plus grande joie, vraiment, voire grande émotion pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vu en vrai. Enfin, c'est quand même un personnage qui s'est imposé et à la télévision et au cinéma depuis quand même maintenant un certain nombre d'années. Il y a un capital sympathie qui est énorme. Alors, ce qui était un problème, parce qu'effectivement, ce capital sympathie, qu'est-ce qu'on en fait? On peut le gâcher, on peut l'user. Et donc, toute la difficulté pour lui, c'est que le capital sympathie soit le même à la sortie. Moi, j'ai entendu, j'imagine que vous avez écouté autour de vous, les gens étaient présents là, étaient heureux, satisfaits de ce qu'ils avaient vécu, alors même que ce qu'ils leur proposent n'est peut-être pas a priori ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus chercher Édouard Baird, ils sont ressortis avec du Thomas Bernard, du Bukowski, je parle plutôt des moins connus, on va dire Romain Gary, c'est peut-être plus grand public, mais quand même, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc il y a ce risque-là, et puis il me semble quelque chose qui est de l'ordre, pas du malentendu, mais vous parlez tout à l'heure, Karen Châtelet, des improvisations dans lesquelles Édouard Baird excelle. Moi, je crois que c'est tout sauf de l'improvisation, c'est énormément de travail. À mon avis, on regarde si on enregistre chaque soir le spectacle, il va y avoir très très peu de variantes. Ça a l'air improvisé, ça fait partie de son génie de comédien, d'avoir l'air de sortir les choses comme elles arrivent dans son esprit. Moi, je pense que c'est un spectacle extrêmement structuré, même si je suis d'accord avec vous, Philippe Chevillier, comme des problèmes de couture, on se dit, mais voilà, alors les lumières baissent, on peut mettre éventuellement une musique ou pas pour signifier que c'est un moment plus grave, ce que la salle suit très bien. Bon, je pense que là, pour le coup, ce sont des choses qui peuvent peut-être être améliorées, mais bon, moi, ce qui est important, c'est que effectivement, il ne parle que de ceux, oui, ceux, parce qu'il n'y a pas de femmes, de ceux qu'il aime parmi les auteurs que nous avons cités. Donc, c'est vraiment une transmission de passion qu'il essaye de faire, et ça, c'est quand même un acte qui est à la fois beau et généreux, me semble-t-il. Caroline Châtelet, là, sur l'improvisation.
Sur l'improvisation, en fait, je vous rejoins, c'est extrêmement écrit, mais pour moi, il y a quand même des moments qui relèvent de
fin, un petit peu, aux petites jointures.
Après, je voulais revenir sur quelque chose que vous évoquiez concernant le public, ce public hypnotisé et acquis d'avance. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris devant ce spectacle, et je repensais à Joanne Le Guilherme, donc, qui est un artiste circassien, qui lui a été très connu pour un spectacle secret, et qui disait qu'il se méfiait du public précontent, et qu'en fait, il travaillait à décevoir le public parce qu'il pressentait les attentes du public qui pouvait applaudir très facilement. Et c'est vrai que devant ce spectacle, moi, je voyais comme ça les réactions du public, et je me disais que c'était pas du tout le même positionnement, et qu'Édouard Baird, lui, n'était pas du tout là pour travailler sur un mode déceptif et décevoir les attentes, mais qu'au contraire, il travaillait là-dessus, il s'appuyait là-dessus, vraiment, et il appuie tout le spectacle là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que là où Joanne Le Guilherme ou d'autres artistes, par exemple, vont produire un travail qui va créer du dissensus, de l'inquiétude, là, on a vraiment un artiste qui prend les spectateurs par la main et qui veut produire un spectacle éminemment réconfortant, et en partageant quelque chose et un moment, enfin, et des moments de
c'est
de
pas évident quand même, même sur un public conquis d'avance, de proposer du Malraux, du Camus, du Thomas Bernhardt quand même. C'est pas si facile que ça. Certes, il dit qu'il adore, par exemple, les spectacles de boulevard où on téléphone, où on dit allô. Donc, ça lui permet d'imiter Jacqueline Maillan ou Maria Pacôme ou d'autres si le public en demande. Ça fait partie de l'impro. Mais quand même, moi, je trouve assez risqué ces ses choix littéraires, ses allusions à Modiano, le public qui va au Théâtre Antoine pour voir Édouard Baird, qu'il admire à la télévision ou à la radio, il ressort quand même, comme vous le disiez Arnaud, il ressort nourri de quelques grands textes. Mmh. Et ça, c'est pas la facilité quand même.
Mais je ne dis pas du tout que c'est de la facilité, en fait. Je dis que lui,
parliez de consensus.
Ah non, je dis qu'en fait, il va chercher le public et il s'appuie aussi sur les réactions du public pour construire son spectacle. Mais c'est pas du tout dans le sens consensuel. Non, c'est plus dans le sens de réconfortant.
Ah, d'accord.
Je pense que c'est un spectacle qui travaille le réconfort
et la
consolation. Ouais, en même temps, il parle que des gens qui sont au bord du gouffre quand c'est Bukowski, quand c'est Thomas Bernhard, sont pas des gens qui sont parfaitement en accord avec le monde dans lequel ils vivent.
Oui, mais qu'en fait, il offre toujours en contrepoint à ces textes assez sombres quelque chose de l'ordre de la consolation.
Philippe Chevillier ?
Oui, je pense qu'il y a... Édouard Baird plaît, il a le désir de plaire, il est aimé, il a le désir d'être aimé, il y a ce rapport de... Il donne, et il aime bien recevoir aussi du public, puisqu'il, d'ailleurs, c'est de ça qu'il parle, quand il dit que, finalement, cette histoire qu'il dit au début, mais il y a eu un regard dans la salle qui a fait que je suis parti, ça résume tout. Il y a un moment très drôle, d'ailleurs, sur son rôle de Christ.
De Christ en croix.
Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que si on réfléchit bien à ces parties comiques, qui pourraient être justement ce contraste, on se dit là, il fait le sketch et puis après il fait la lecture grave. Souvent ces parties comiques, on sent bien qu'il y a une recherche parce que c'est toujours sur le mode de l'absurde avec des effets miroirs, avec ce personnage du barman, acteur, régisseur qui fait parler. Il y a une espèce de délire sur le poulet. À un moment donné, on ne sait plus très bien ce qu'il raconte. L'histoire du téléphone, du faux téléphone dont il se sert pour soit appeler des fantômes, soit pour appeler une femme qui serait sa femme. Enfin, tout ça, on sent bien qu'il a étudié aussi pour ne pas faire de l'humour facile. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a, je pense, alors là, c'est le débat, est-ce qu'il improvise un peu en scène ou est-ce qu'il est parti d'improvisation très vite? Enfin, je crois qu'il dit lui-même qu'il écrit très vite en un seul jet ou qu'il... Et je me demandais, est-ce qu'il pourrait encore muscler un peu ce spectacle, l'améliorer? Je me disais, oui, ça serait bien qu'il y ait des petites liaisons qui soient un petit peu plus, qui rajoutent quelques traits d'humour peut-être ou quelques liaisons, mais faut pas qu'il y touche trop non plus parce que il y a cette spontanéité-là qui est aussi sa marque de fabrique. Il faudrait pas qu'il l'alourdisse.
Et cette élégance. Il y a tellement d'élégance. Et cette langue, c'est un garçon bien né. Hein, on sent qu'il a dû très bien parler dans son milieu. Et il a franchement un côté Guitry, s'appétit comme du champagne ou comme du Musset. Enfin, moi, c'est ça que j'aime aussi chez Édouard Baird. C'est ce panache qu'il a. Il cite Rochefort ou Marielle, paix à leur âme, mais c'est vrai qu'il est dans cette lignée-là. Et en plus, il a cette voix inimitable. Il a ce timbre. Moi, je trouve que c'est un acteur français dans la magnifique tradition du terme. Et c'est ça qui me fascine et m'émeut à la fois.
Très bien. Est-ce qu'on va nous donner envie à nos auditrices et auditeurs d'aller voir Édouard Baird? Je l'imagine et je l'espère. Allez voir Les élucubrations d'un homme frappé par la grâce. C'est un spectacle qui, pour l'instant, est annoncé jusqu'au 22 juin au Théâtre Antoine. Mais normalement, les spectacles d'Édouard Baird ont une vie assez longue, peuvent revenir, on peut l'espérer, Fabienne Pascoe.
Jusqu'à fin juin, je crois.
Oui, pour l'instant, le 22, ça change. Ouais. Chaque jour. Donc on est à jour du jour. Pour l'instant, annoncé jusqu'au 22 juin, mais peut-être ensuite. À suivre dans cette dispute ce soir, qui a tué mon père? L'amour entoure lettres et amour et psyché.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au théâtre avec Qui a tué mon père, texte d'Édouard Louis, mise en scène et interprétation Stanislas Nordet, en ce moment et jusqu'au 15 mai à l'affiche du Théâtre National de Strasbourg, un spectacle qui s'est déjà pas mal promené, un premier rapide tour de table, une fois encore pour résumer vos impressions, ce que vous développerez dans un instant, Caroline Châtelet.
Alors c'est quand une mise en scène amplifie la portée d'un texte sans en interroger les ambiguïtés.
Pas mal, comme accroche, Philippe Chevillier.
Un pamphlet maladroit, superbement mis en scène et interprété, sentiment mitigé.
Ah, et Fabienne Pascoe ?
Admiration totale.
Bon, alors, parole à l'admiration totale et peut-être quand même un petit rappel pour évoquer, alors on avait parlé dans la dispute littérature de ce livre d'Édouard Louis, quel est donc le sujet de ce livre, Fabienne ?
Eh bien, ce livre qui a été commandé par Stanislas Nordet à Édouard Louis reprend finalement En finir avec Eddie Bellegueule, puisqu'on retrouve le personnage du père qui était plutôt détesté, honni dans Eddie Bellegueule, parce que se moquant de son fils homosexuel, n'admettant pas sa part féminine, et donc Eddie Bellegueule en question ne disait qu'il ne vivait que quand il voyait que la voiture de son père n'était pas devant la maison. Enfin, c'était atroce. Et là, des années après, il retourne voir ce père. Et c'est la réconciliation avec le père. Le père qui a eu un accident du travail et qui depuis est brisé, ne peut plus travailler. Le père qui a un corps meurtri. Et donc, il repart en quête de souvenirs, de leur passé commun. Il se rend compte que finalement, le père et le fils se ressemblent. Et ça n'est pas comme dans Oedipe où il va tuer son père, c'est plutôt comme dans Hamlet, il va chercher à sauver son père et à venger son père, d'où les diatribes politiques finales qui n'ont peut-être pas plu à mes camarades.
On va en parler dans un instant, après avoir écouté un extrait de ce spectacle, donc avec Stanislas Nordet.
Pour toi, construire un corps masculin, cela voulait dire résister au système scolaire, ne pas te soumettre aux ordres, à l'ordre, et même affronter l'école et l'autorité qu'elle incarnait. Au collège, un de mes cousins avait giflé un professeur devant toute sa classe. On parlait toujours de lui comme d'un héros, la masculinité. Ne pas se comporter comme une fille, ne pas être un PD, ce que ça voulait dire, c'était sortir de l'école le plus vite possible pour prouver sa force, le plus tôt possible pour montrer son insoumission. Et donc, c'est ce que j'en déduis, construire sa masculinité, c'était se priver d'une autre vie, d'un autre futur, d'un autre destin social que les études auraient pu permettre. La masculinité t'a condamné à la pauvreté, à l'absence d'argent, haine de l'homosexualité égale pauvreté. Je voudrais essayer de formuler quelque chose. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai le sentiment que ton existence a été, malgré toi, et justement contre toi, une existence négative. Tu n'as pas eu d'argent, tu n'as pas pu étudier, tu n'as pas pu voyager, tu n'as pas pu réaliser tes rêves. Il n'y a dans le langage presque que des négations pour exprimer ta vie.
Voilà pour cet extrait de « Qui a tué mon père ?», texte d'Édouard Louis, mise en scène et jeu Stanislas Nordet. Caroline Châtelet, avant de développer votre sentiment, résumé tout à l'heure, quand même évoquer les partis pris de Nordet, metteur en scène et acteur, et décrire d'abord peut-être ce que l'on voit.
Alors Stanislas Nordet donc met en scène le texte dans une forme très léchée ou maîtrisée. Donc on a un dispositif qui est à la fois assez sobre mais très imposant par sa taille. C'est une scénographie de hauts murs sur laquelle sont d'abord projetés des arbres en noir et blanc avec un texte et sur lequel viendront ensuite surajouter des maisons. Donc il faut savoir qu'il y a une échelle qui est complètement irréaliste entre les maisons d'une ville moyenne assez petite et la taille des arbres, ce qui peut peut-être que cet écart d'échelle, ça signale aussi l'espace imaginaire, ou en tout cas un lieu où les souvenirs se reconstituent dans un écart avec la réalité, ce qui est peut-être aussi le travail du texte et de la mise en scène. Et au centre de la scène, il y a une table qui n'en apparaît aussi que plus petite par le côté extrêmement imposant des murs. Et à cette table, deux hommes se font face. Ces deux hommes, donc, ce sont Édouard Louis, incarné par Stanislas Nordet, et son père. Donc Stanislas Nordet s'adresse à cet homme qui est son père, mais qui est incarné par un mannequin qui a la tête dans les bras, qui est dans une situation d'abattement. Et Nordet, il va parler à cet homme, puis il va se tourner vers nous. Ensuite, au fur et à mesure du spectacle, il va se déplacer, tandis que aussi, au fur et à mesure du spectacle, d'autres mannequins représentant le père vont venir peupler l'espace du plateau. Mais à chaque fois, toujours dans des positions de dos au sol ou assis la tête dans les mains. On a vraiment l'état d'un homme qui est abattu, brisé par la vie. Et voilà, sachant que là-dessus aussi, il y a régulièrement une musique, enfin des musiques plutôt dramatiques.
Comme on a entendu là, par exemple, dans l'extrait à l'instant. Alors avant de revenir vers vous, Caroline Premier, alors développement par Philippe Chevillier sur ce spectacle.
Je vais essayer d'être rapide sur le mitigé.
Bon, vous avez le temps, Philippe.
Le texte, il y a... Je ne dis pas qu'il y a des beaux moments dans le texte. Tout ce dont parlait Fabienne sur le rapport entre père et fils est quand même beau. Il y a des anecdotes émouvantes. L'évocation de la souffrance sociale du corps, le corps meurtri par les politiques, c'est une idée intéressante, évidemment, et forte. Des destins gâchés aussi. Le père qui est évoqué quand il était jeune et qui aurait pu être autrement, autre chose. Et puis le poids de l'ennui aussi qui touche les pauvres. Il y a des beaux moments dans le texte. Moi, ce qui m'a moins plus, c'est ces trois choses. D'abord, je trouve ça un brin mélodramatique par moment et manque un tout petit peu de poésie. Un brin suffisant parce que il y a une façon dès le début de sous-entendre que on ne parle jamais des pauvres, des petits dans le théâtre et dans la littérature, alors qu'on en parle quand même très souvent dans le théâtre. Il n'y a pas que Brecht, mais il y en a d'autres. Et ça m'agace un peu. Et surtout, bah oui, c'est vrai que ce qui me gêne, c'est cette fin où qui est quand même évidemment le moteur du texte, un texte urgent, d'évoquer tout d'un coup, de donner les noms alors des différents présidents de la République et de leurs collaborateurs qui auraient tué son père assassiné en comparant Adolphe Thiers, Jacques l'Éventreur et Richard III pour donner un côté shakespearien. Je trouve que ça fait un peu tract à la fin et un peu aussi, ça fait penser aussi un petit peu aux tweets qu'on voit des fois d'ailleurs d'Edouard Louis, quelquefois un peu violent, ces indignations qui en fait tuent un peu. Je pense que moi je me souviens de Laïka par exemple, ce spectacle de l'Italien là qui était qui était tout aussi radical mais qui était dans la fable. Et à la fin, c'était amusant de voir des gens alors qui pouvaient être absolument réactionnaires en diable, mais qui au moins sur le moment étaient portés et avaient envie de défendre les migrants, avaient envie d'en faire les ouvriers. Là, on se retrouve dans un discours vraiment très et un peu naïf, parce que au fond, qu'est-ce que c'est la fin du discours? C'est la réconciliation du père et du fils grâce à la révolution. C'est un petit peu facile. Mais, alors justement, je voulais quand même, parce que je suis mitigé.
Alors, tiens, gardez le mitigé, Philippe.
Donc, je voulais te donner le bon côté.
Oui, vous allez le donner dans un instant. Pour rappel, quand même, ce texte s'appelle « Qui a tué mon père ?» Il n'y a pas de point d'interrogation, puisque justement, « Qui a tué mon père ?» On va avoir la liste très, vraiment, des noms de ces personnes. Alors, pourquoi, pour vous, il n'y a aucune réserve, Fabienne Pascaud, avant d'entendre les louanges de Philippe ?
Il n'y a aucune réserve pour moi, parce que il se situe dans le domaine de la tragédie grecque. Avec ce cri qui pour moi pourrait évoquer, je parlais de tout à l'heure de d'Hamlet ou d'Oedipe, mais ça pourrait être aussi Oreste qui veut venger son père Agamemnon. Et donc dans la tragédie grecque, il y a toujours une réflexion sur la cité. Et donc la tragédie, le théâtre aide à penser la cité. Elle fera même naître la démocratie dans l'Orestie. Et donc je trouve cette dimension politique que donne Nordet et que surtout Édouard Louis dans le texte, et ben je la trouve bienvenue parce que elle nous oblige à réfléchir et ça devient presque une sorte de prière laïque au public. Réfléchissez, pensez, regardez ce qui se passe autour de vous. On peut trouver ça naïf, bien sûr, ou un peu appuyé. Moi, je l'ai vécu un peu comme un électrochoc. De le voir proféré en scène et admirablement proféré par Stanislas Nordet, qui est magistral dans le rôle, tout à coup, ça m'a donné une autre dimension. Je dois dire que je m'en étais pas aussi fortement rendu compte en lisant le roman. Je m'étais dit, tiens, ça ressemble un peu à ce que Christine Angot fait dans Un amour impossible, où elle justifie aussi ce dont a été victime sa mère par la société, par la bourgeoisie. Et là, je l'ai vraiment pris comme un coup de poing. Et finalement, ce qui peut sembler naïf ou niais, eh bien, c'est un théâtre qui n'est pas tiède. Je pense que ni Édouard Louis, ni Nordet ne sont des tièdes, et louange à eux de n'être pas des tièdes.
Car Dieu vomit les tiennes.
Voilà, c'est vous qui l'avez dit.
Caroline Châtelet.
Alors,
ça, le spectacle, oui, vous pose problème à différents endroits.
Oui, mais le texte aussi à la base déjà. C'est vrai que je rejoins ce que dit Philippe Chevillet sur le fait. Enfin, à la fois c'est un texte qui est intéressant dans le sens où il énonce une souffrance sociale. Enfin, il dit des choses quand il dit, par exemple, tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. Donc il y a quand même beaucoup de choses, mais qui pour moi ne sont toujours que esquissées ou dites à la va-vite, qui sont en plus énoncées quand même. Sur un ton, vous dites mélodramatique, Philippe, moi je dirais même carrément misérabiliste. Ce qui est peut-être d'autant plus problématique quand on sait que le premier texte de Édouard Louis, c'est En finir avec Eddie Bellegueule, où là justement il critiquait vraiment sa famille. Et là, bon, il a évidemment, c'est un auteur, il a le droit complètement de changer d'avis, sauf qu'en fait il n'interroge pas du tout son revirement. Donc on a comme ça tout à coup une volte-face. Et moi j'ai l'impression que c'est presque à chaque fois que chaque texte est là, opère comme un marchepied pour lui, pour se situer politiquement, pour se situer dans le champ littéraire, mais que ça manque de sincérité, qu'à chaque fois je trouve ça extrêmement univoque. Après, ce qui est assez intéressant avec cette mise en scène, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'amène à réfléchir, intéressant de réfléchir dessus, c'est qu'on a une mise en scène extrêmement maîtrisée. On a Nordet qui pour le coup est un grand acteur et qui n'en fait pas trop peut-être lui dans ses gimmicks de jeu qui peuvent parfois virer aussi à la caricature. Et il donne une dimension, comme vous le disiez, et une puissance au texte qu'il n'a pas à la lecture. Enfin moi je l'ai trouvé plus puissant à le voir jouer, mais après il n'en demeure pas moins que le texte, enfin que la mise en scène prolonge cet aspect misérabiliste, enfin n'interroge pas du tout justement les ambiguïtés, et que justement cette fin, cette attaque politique qui pourrait être intéressante, qui là pour moi est beaucoup trop brève, caricaturale, ramassée, eh bien en fait au final la mise en scène ça prolonge ce geste-là, au final ça prolonge l'autocomplaisance de l'écriture d'Édouard Louis, et ça devient aussi, ça fournit un propos qui peut être un peu complaisant pour le spectateur d'entendre ça. Ce qu'il nous faudrait, ce serait peut-être une bonne révolution.
Et la mise en scène n'est pas misérabiliste quand même, au contraire, elle se dégage du réel, elle est vraiment fantasmatique presque sur cet espace géant. À la fin il y a même de la neige qui tombe, enfin elle se décolle complètement du réel, la mise en scène.
Oui, mais le misérabiliste, ça ne veut pas dire naturaliste pour moi. En fait, c'est plus, on est dans des artifices. Par exemple, à la fin, quand Stanislas Nordet joue la partie où Édouard Louis évoque des souvenirs de son père, quand il se met côté court de la scène, comme ça, avec où il parle micro. Dans le micro, là, on a vraiment un effet, justement, pour accentuer quelque chose une émotion, enfin,
lors de la confidence.
Là, oui, moi, je vois vraiment aller chercher des artifices qui vont, en plus, accentuer l'émotion.
Philippe Chevillet?
Alors moi, la mise en scène, puisque c'était la partie positive, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement réussie. Très belle. Je pense que Édouard Louis peut remercier Stanislas Nordet, parce que jamais on n'aurait pu imaginer que le texte soit porté, moi à mon avis, à ce niveau. Par d'abord le décor d'Emmanuel Colus est vraiment superbe. Ce qu'on disait sur le côté évocation sinistre et en même temps pas réaliste, mais il y a vraiment, et puis l'histoire du père qui se démultiplie, ses mannequins comme autant de pères broyés, d'ouvriers broyés, tout ça c'est très très beau. Je trouve qu'en plus Nordet, qui a fait beaucoup beaucoup de monologues, on le sait, arrive maintenant à vraiment maîtrisé, et il y a plus
Sans micro, en plus.
Il y a plus cette. Alors, il l'utilise à un moment donné, le micro.
Oui, comme ça, vous venez de le dire, ce petit moment. Ouais.
Il l'utilise mais de façon très intelligente, au moment où justement le passage est presque le plus. Risquait d'être le plus mélodramatique, il le chuchote, et ça, c'est très beau. Quand il y a un moment où Édouard Louis fait un aveu sur une faute qu'il a commis vis-à-vis de sa famille, tout ça, il est devant. Et à la fin, il ne peut pas faire autrement que proférer le tract à la fin. Et moi, c'est vrai que. Le seul problème, c'est que dans la profération, il peut faire ce qu'il veut, mais ça s'effondre à la fin, parce que c'est pas une histoire d'être tiède ou pas tiède, c'est que c'est une histoire d'adresse ou de maladresse. C'est-à-dire que moi, quand on assène des choses, j'ai l'impression, encore une fois, je lis le tract, et pourquoi on ne serait pas pour.
Ça fait du bien qu'on assène des choses, d'asséner des choses
de temps en temps. Mais on les assène tout le temps. On va au théâtre, on voit plein de pièces, quand on voit Milo Rao, quand on voit des tas de gens qui assènent des choses, mais de façon plus suggérée, plus subtile, et par le récit, par la fable, encore une fois, qui sont portés par de la poésie. Là, c'est plus de la poésie, c'est, il faut vraiment que je me dépêche à la fin de faire ma profession de foi. Il y a quelque chose de très naïf qui nous ramène au moment où il explique, d'ailleurs, Edouard Louis, qu'il était, je sais plus, au NPA quand il était très jeune. On retrouve ça. Et moi, j'ai l'impression de lire ses tweets il en fait plus, je crois, maintenant, ou il en fait moins, mais où il s'indignait, et l'indignation, comme ça, portée de façon aussi caricatural, je trouve que ça ne porte pas. Ça. Alors la moitié de la salle, on voyait des gens le soir de la première très chic qui applaudissaient, l'autre moitié qui levait le poing, c'était très bizarre, mais j'avais pas l'impression d'être vraiment dans une représentation de quelque chose de si puissant que ça, si ce n'est la mise en scène et l'interprétation.
Justement, moi j'ai pas vu ce spectacle, j'ai lu le texte d'Edouard Louis quand il est sorti, j'ai pas mal de réserves que j'ai exprimées ici, je vais pas les réexprimer, mais par contre j'ai beaucoup entendu parler de ce spectacle, de gens qui l'ont vu, on m'a parlé de salle debout, enfin d'ovation, d'une grande ferveur, moi qui n'ai pas sans parfois m'inquiéter un peu, je sais pas si c'était le cas, non, mais c'était comme les gens qui allaient voir Merci Patron et qui dans les salles de cinéma se levaient pour applaudir et remercier, enfin il y a quelque chose pour moi de toujours un peu douteux, mais le geste théâtral je ne l'ai pas vu, donc je n'en sais rien, mais les salles où vous étiez étaient ferventes, Fabienne Pascaud, vous
moi,
l'avez vu?
Moi je pars tout de suite dès le dernier mot,
ça,
donc
c'est vrai,
voilà,
c'est vrai.
Donc je ne peux pas
Fabienne
dire
Pascaud en bout de rangée, prête à partir.
Voilà, pour ne pas troubler mon émotion, mais
on le ressent pendant le spectacle.
Stanislas Nordet est tellement puissant. Il est censé avoir 25 ans dans la pièce, il en a le double, et il est ému en plus. C'est la première fois que je l'ai vu ému comme ça sur une scène. Peut-être pense-t-il à son propre père, mais il est non seulement il profère avec une force éblouissante, mais il y a de l'émotion.
Dernier mot, Caroline Châtelet.
Oui, en fait, moi, le soir où je l'ai vu, c'était la première au Théâtre de la Colline. Donc, en plus, dans un théâtre, théâtre national, il faut aussi dire que ce spectacle, il joue au Théâtre national de Strasbourg. Enfin, il joue aussi dans des grands théâtres. Et qu'on a aussi tout de suite cette parole comme ça portée au centre du paysage théâtral qui joue, qui influe évidemment. Et moi, je vous rejoins Philippe là-dessus sur le tout fait que moi, je trouve que c'est asséné caricatural et que donc il y a quelque chose qui peut vite être bien pensant aussi pour les spectateurs d'entendre ça.
Je
ferai crédit à Stanislas Nordet de sa sincérité, puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a reçu ce texte en décembre 2017 et c'est le moment aussi où c'est quelque chose qu'il confiait à une consoeur journaliste, Cécile Baker, dans Nouveau. C'est le moment où il renoue avec son père qu'il n'avait pas vu depuis 33 ans. Donc il y a aussi comme ça une sorte de miroir.
Bon, Philippe Chevy, vous voulez absolument ajouter quelque chose et ça va être son coup de cœur après. Il sera encore plus court, Philippe.
Non, je ne doute aucunement de la sincérité ni de l'un ni de l'autre. Voilà.
Bon, ça, alors là, vous lisez dans les broules de cristal. Là, c'était pour dire ça, Philippe Chevy.
Ah oui, mais moi, c'est comme ça que je le ressens.
Bon, voilà. Qui a tué mon père ? Texte d'Edouard Louis, mise en scène, interprétation Stanislas Nordet en ce moment et jusqu'au 15 mai au Théâtre National de Strasbourg. C'est l'heure donc de votre coup de cœur, Philippe Chevillier, pour Amour et Psyché d'après Molière, mise en scène d'Omar Porras au Théâtre de Carouge à Genève à partir de demain jusqu'au 17 mai, puis ensuite il sera au Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine du 22 au 25 mai. Commentaires, développement, description.
Alors, qui aurait pu imaginer, Arnaud, qu'on allait autant se réjouir à une représentation de Psyché de Molière ?
Plein de gens, j'imagine.
La tragédie du ballet de 1671, c'est quand même un texte sacrément indigeste pour un public d'aujourd'hui. Il fallait un magicien, et ce magicien, c'est le metteur en scène d'origine colombienne Omar Porras, qui m'avait ravi déjà avec ses versions très poétiques de l'histoire du soldat, de Roméo et Juliette avec des lanternes japonaises et des japonais, et de l'éveil du printemps. Alors Omar Porras, comme vous l'avez dit, et son théâtre de Malandro, le bien nommé, sont installés à Genève au théâtre de Carouge. Ils ont un pied-à-terre en région parisienne au théâtre de Malakoff, où ils sont invités presque chaque année. Et on les verra bientôt donc à Bordeaux du 22 au 25 mai pour présenter ce spectacle baptisé « Amour et Psyché ». Alors qu'a fait Omar Porras du texte de Molière ? Il l'a allégé, il l'a rendu plus aimable en y glissant du La Fontaine, des extraits d'opéra italiens du XVIIIe siècle. Il l'a tiré vers la Commedia dell'arte, a ajouté une bonne dose de dérision, de décalage, et il en a fait une féerie en utilisant des matériaux pauvres du style voile, carton pâte, mais riche d'effets, parce qu'on a le droit à des colonnades kitsch, à une orgie de dorures, à des éclairages colorés, à des faux orages et à des feux d'artifice sans arrêt. Donc la love story entre la mortelle bombe Psyché et le dieu amour contrarié par la jalousie de Vénus, qui est très méchante, devient un divertissement frondeur et léger, une belle fable sur l'amour qui dévaste et la terre et la ciel depuis et le ciel depuis la nuit des temps. Les acteurs jouent avec une énergie sans faille, avec beaucoup de distance burlesque et s'approprient au mieux les alexandrins en poulet. C'est un triomphe tous les soirs, d'après ce qu'il m'a semblé, en tout cas le soir où je l'ai vu. Ça plaît aux grands et aux petits, les scolaires dans la salle sont ravis. On ne leur avait pas dit que les vieux dieux de l'Olympe pouvaient autant les faire rigoler et rêver.
Voilà pourquoi il faut aller voir, pour toutes ces raisons, sans doute d'autres, encore Amour et Psyché d'après Molière, mise en scène Omar Porras, au Théâtre de Carouge, atelier de Genève, à partir de demain, 30 avril, jusqu'au 17 mai, puis au Théâtre National de Bordeaux, Aquitaine, du 22 au 25 mai.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche ce soir, c'est l'amour en toutes lettres. Question sur la sexualité à l'abbé Violet. À voir jusqu'au 22 mai au Théâtre de Belleville, puis en tournée. Il faut dire que ce spectacle a une vingtaine d'années. Alors, on nous dit chaque soir, quand on y va, la combientième représentation. Je crois que c'était moi, c'était 360 et quelques. Au départ, l'historienne Martine Sèvegrand a fait des 120 lettres reçues par l'abbé Jean Violet entre 1924 et 1943, la matière d'un livre qui a été publié en 1996. Violet, l'abbé Violet était le fondateur de l'Association du mariage chrétien. À ce titre, il était responsable de revues s'intéressant aux droits et aux devoirs des époux, notamment en matière de sexualité. Et donc, il y avait ce carton de lettres sur lequel il avait marqué « quatre consciences ». On a, par ce biais, accès à des pans entiers de la vie de catholiques fervents, à une époque où la seule contraception acceptée par l'Église, c'était la continence. Et dans chacune de ces missives, des tranches de vie et des questions. Il faut dire qu'il y a donc un gros matériau de départ, on va l'évoquer, et que Caroline Châtelet et moi-même l'avons vu le même soir, et je sais que Philippe Chevillier et Fabienne Pascaux, je crois que c'était le lendemain, et donc nous n'avons pas entendu les mêmes lettres, hein, parce que ça marche en diptyque, a priori ce sont les mêmes problématiques, mais il y a un tel matériau qu'il y a plusieurs façons de le donner. Impression générale, synthétique sur ce spectacle, Philippe Chevillier ?
Alors, un spectacle documentaire, incisif et incarné sur le désir entravé par la religion.
Fabienne Pascaux.
De la très bonne radio.
Caroline Châtelet.
C'est un portrait passionnant de la France sous domination catholique.
Alors, Caroline, expliquez un peu mieux comment est constitué ce spectacle à partir de ce matériau. Comment ça se passe ?
Alors donc ce spectacle, il est extrêmement simple et économe dans sa facture. Donc ce sont 10 lettres de ces 120 lettres publiées qui nous sont données à entendre chaque soir et qui sont interprétées par 10 comédiens différents. Donc lorsque le spectacle débute, le plateau est nu, la salle est allumée, elle va le rester durant toute la représentation. Il y a un premier personnage qui entre et qui se place au centre du plateau. Il rejoint la scène depuis la salle, comme le feront d'ailleurs tous les autres comédiens après lui, ce qui est peut-être une manière de nous signifier que c'est eux qui parlent, mais que ce pourrait être nous, et de nous renvoyer comme ça à une sorte d'assemblée d'anonymes ou d'individus divers. Donc ce premier comédien ou personnage commence par nous réexpliquer le principe du spectacle, quelles sont ses lettres, puis il dit la sienne, il s'adresse à nous directement, il a les bras le long du corps, il donne la date, l'adresse, monsieur l'abbé, puis il expose son cas. Chaque comédienne ou comédien qui vont suivre feront de même, et ils vont patiemment former un cœur en se mettant au plus proche les uns des autres. C'est une petite assemblée qui n'a absolument aucun geste, que des paroles. Ce sont vraiment des corps simples. Les acteurs n'incarnent pas des personnages. Ou alors vraiment de la manière la plus épurée et modeste qui soit. Et mis à part un personnage qui est une sorte de féministe virulente qui prendra la parole à plusieurs reprises parce qu'elle écrit plusieurs lettres, chacun dira sa lettre successivement.
Au moins une fois par quinzaine, il veut coucher dans mon lit, pour un quart d'heure, ou pour une demi-heure, pour échanger ses marques de tendresse. Il touche mon corps, surtout les seins et l'autre partie. Il se couche sur moi, en faisant les mouvements de l'acte en dehors de la partie sexuelle, ou il se couche tout près de moi en faisant les mouvements sur ma cuisse. Il m'embrasse sur la bouche. Il veut me voir. Il me demande de tenir son membre, de le regarder. Tout cela sans perte de semence de sa part ou excitation de la mienne. Sauf quand ces démonstrations amoureuses durent trop longtemps. Le jour, si nous sommes assis, par exemple, sur un canapé, il aime à mettre sa main entre mes jambes ou à me toucher. Je ne vois pas clair et ne sais pas s'il s'agit soit d'un abus de la part de mon mari ou d'une trop grande pruderie de ma part.
Voilà un extrait d'une de ces lettres qui composent ce spectacle. Fabienne Pascaud.
Alors,
vous avez dit tout à l'heure de la très bonne radio.
Oui, parce que c'est vrai que, comme le disait Philippe et comme l'a dit Caroline, c'est tout à fait passionnant parce qu'on apprend de la vie sexuelle des chrétiens entre 1924 et 1943. Cette naïveté, cette innocence, cette soumission aux règles de l'Église et tout ce que ça charrie de frustration. Mais accepter, c'est bouleversant pour ça. Et en plus, c'est admirablement écrit. Alors certes, on écrivait sans doute à Monsieur l'abbé en réfléchissant à quatre fois, mais les phrases sont justes, pudiques. Enfin, ces lettres, elles sont admirables. Et puisque ce que ça peut raconter de la découverte de l'homosexualité, d'une femme qui a trop de désirs par rapport à son mari, donc qui en redemande un peu trop et qui est un peu gênée, le mari. Enfin, nous n'avons pas forcément vu, entendu les mêmes lettres. Ouais. Donc ça, c'est d'un point de vue documentaire, j'ai été assez bouleversée. C'est une bonne idée de l'avoir fait, mais le théâtre là-dedans, il est où quoi? Les uns à côté des autres, ils ont l'air de faire cœur, de souder. Alors c'est toute une France, heureusement, je veux penser que les gens ne sont plus soumis dans leur sexualité comme l'étaient ces pauvres bougres à l'emprise de l'Église. Je pense qu'ils ne le sont, que ça n'existe plus, heureusement. Mais bon, je cherche en vain le théâtre. J'aurais pu le lire, ce spectacle, j'aurais eu la même émotion. Le théâtre ne m'apporte rien. Et en plus, tous les spectacles que j'ai vus de Didier Ruiz, c'est toujours le même système, la même grammaire. Alors c'est vrai que c'est bien de rassembler des prisonniers, des trans, comme on a pu le voir cet été à Avignon, des scientifiques, comme on a pu le voir aussi, mais je cherche un peu la fibre théâtrale qui me ferait un peu décoller. Comme dirait Jean-Christophe Briançon.
Une réponse de... Ça, c'était la semaine dernière, il y a une deux semaines. Une réponse de Philippe Chevillier, peut-être à cette interrogation.
D'abord.
Un hommage.
Moi, je suis pas d'accord, parce que je trouve que, justement, ce qu'il y a de fort dans ce spectacle, c'est qu'il, malgré l'économie de moyens et ce côté statique, mais ça ne dure qu'une heure, donc on peut aussi supporter 50 minutes même, bon.
Je confirme. Comme...
Chez d'autres, où ça peut durer 3 heures. Non, là, c'est 1 heure. Et je trouve que c'est... On retrouve donc des acteurs qui ont joué il y a 20 ans. Et justement, je trouve qu'ils ont...
Mais ça, on s'en fout. On n'était pas là forcément.
On n'était pas là, mais du coup, bien sûr qu'on était... Enfin, on aurait pu y être, mais on n'y était pas. Mais ce que je pense, c'est qu'on sent qu'il y a une incarnation chez... Ils les jouent bien, ces lettres. Elles sont jouées, elles sont...
Et moi, chaque personnage... C'est la première chose, Philippe, quand même.
Ben oui, mais ça fait du théâtre. Parce que si c'était juste de lire des lettres... à la radio, ça serait pas la même chose. Le théâtre, c'est quand même d'abord une interprétation. C'est quand même
Il y a l'interprétation à la radio.
Méchant,
Philippe Chevillier.
Oui, bien sûr.
Vous n'écoutez pas assez les fictions de France Culture.
Bien sûr.
Mais vous me ferez trois pâtères. Et...
le théâtre, c'est quand même d'abord, ça commence quand même par incarner un texte, et elle est incarnée par leur présence, pas seule physique
ils
aussi.
Bougent pas.
Ils ne bougent
pas. Et alors
pas. Ils ne bougent pas, mais c'est dans leur regard.
Il faut saisir leur regard et leur bouche et leur sourire.
Ils bougent un peu tout de même. Et par exemple, moi, je trouve que vous parliez justement de ces moments émouvants qui sont les deux personnages dans notre soirée qui étaient homosexuels et qui font un genre de coming out mais sans le savoir, c'est parce qu'ils ont ça les bride tellement, ça les inquiète tellement qu'ils osent poser la question à l'abbé. Je trouve que par exemple ils expriment vraiment quelque chose et la femme à la fin qui justement rue dans les brancards, qui est une autre féministe dans notre soirée, il y en a qu'une quasiment. Il y a justement cette ironie qui est forte. Moi, je trouve que tous les personnages représentaient quelque chose. Donc, on a vu d'autres spectacles très statiques avec des gens. C'est pas la première fois. Et le théâtre, il passe quand on a l'impression tout d'un coup d'être en rapport direct avec l'acteur et que le message qui nous est transmis est transmis par une personne et non pas seulement par des mots. Enfin, moi, j'ai ressenti ce théâtre.
Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le degré zéro de la mise en scène pour moi.
Alors, on va entendre Caroline Châtelet, je vous répondrai aussi, ma chère Fabienne Pascaud.
En fait, ce sont des choix de mise en scène qui sont très modestes, mais en même temps efficaces. Et pour moi, il y a du jeu. Pour moi, ces corps ont beau être là, bras ballants, et simplement en donnant leur texte, oui, il y a une présence. Et oui, moi, j'entends résonner. Et je trouve qu'il y a des différences de tempérament, justement, entre chaque lettre, aussi en fonction de ce que chacune décline. Donc, pour moi, c'est vraiment un spectacle qui donne à entendre. C'est vrai, quelque chose que personnellement je ne connaissais pas tellement, même si on peut présumer, mais qui donne aussi à entendre toute la soumission et la souffrance et l'absence de révolte comme ça de personnes, mais qu'elles soient riches ou pauvres, cultivées ou non, enfin de toutes les régions de France, qui sont complètement domestiquées comme ça par une religion, qui sont soumises à celle-ci. Je trouve ça aussi extrêmement beau, la manière dont la grande pudeur ou l'incapacité à nommer les choses. Nous, le soir où nous l'avons vu, mis à part une femme qui emploie le terme saint, le membre et entre mes cuisses, sinon dans chaque lettre, rien n'est énoncé clairement. Enfin, chacun s'exprime par périphrase. Donc, on sent vraiment la difficulté à prendre la plume, la difficulté à s'exprimer, et aussi, surtout, la difficulté de l'Église à y apporter une réponse. Et c'est là aussi où, le soir où nous l'avons vu, je trouve que le montage de texte était particulièrement intéressant, parce que je me disais, ça pourrait être une simple succession de récits intimes qui pourraient durer 30 minutes comme 2 heures. Mais nous, la dernière lettre que nous avons entendue, c'est une femme qui écrit, qui est assez âgée, qui est veuve et qui s'adresse à l'abbé Violet en faisant référence à une encyclique en fait du pape Pie XI. Et en fait, c'est l'encyclique dans laquelle le pape Pie XI dénonce l'avortement, il critique l'émancipation de la femme. Et je trouve que terminé par cette dernière lettre, ça ouvre aussi vraiment sur des questions collectives, politiques, beaucoup plus vastes. Et ça démontre aussi l'incapacité d'une religion de s'adapter à la société, en fait, et d'apporter des réponses viables à une société.
Bon, sur l'intérêt documentaire, je crois que là, on est tous d'accord. Donc,
oui, d'accord.
Et je rajoute mon opinion dans sur cette question-là. Sur la question du théâtre, pour un petit titiller Fabienne Pascaud, bien sûr, moi je trouve que c'est absolument du théâtre, du moment qu'on a un comédien bien vivant devant nous, qui sommes bien vivants, on est quand même dans du théâtre. Bon, ça c'est le degré zéro, vous me direz, du théâtre, mais chez les Grecs ça commençait comme ça aussi.
Ils bougeaient un peu quand même sur leur socle.
Mais par exemple, Stanislas Nordet, que vous aimez tant, je ne parle pas de ce dernier spectacle, encore une fois, que je n'ai pas vu, mais il a souvent eu l'occasion de faire d'assez longs monologues, voire très longs, dans Parler Village par exemple, ou Clôture de l'amour, qui sont des face-à-face. Les gens ne bougent pas, c'est pas parce qu'on bouge pas qu'on incarne pas, qu'on n'exprime pas. Et ben moi, je les ai trouvés très, très puissants, très incarnés. Alors, certes, ils sont les deux pieds bien dans le sol, les bras qui ne bougent pas, et même cette immobilité, moi, je pense qu'elle est dure, et elle est théâtrale.
C'est le symbole des corps bridés aussi. Par la religion.
Mais, donc, il y a une vraie proposition théâtrale. Alors, elle est minimale, comme l'art peut être
minimal.
Oui, mais
comme c'est toujours la même qui fait Didier Ries, le spectacle en spectacle.
Pour vous, qu'elle avait vu beaucoup, pour celles et ceux qui vont découvrir pour la première fois, moi je pense toujours à...
Là, on peut penser que c'est La Matrice, puisque c'était il y a 20 ans. C'est son premier spectacle, j'imagine. Donc c'est peut-être la matrice de son savoir-faire à venir.
Mais pour vous, ça opère pas?
J'écoute, mais j'écoute les yeux fermés. J'ai pas envie de regarder.
Ah oui, moi, j'attrapais leur regard. Ils étaient puissants.
Ils nous regardent. Enfin, ils nous regardent.
Ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas ne cessent de regarder le public.
Je me sens mise en danger quand Stanislas Nordet me regarde. Je me sens interpellée. Mais là, je me suis pas sentie
des raisons. Philippe Chevillet, pour finir.
C'est juste pour dire que Trans, c'était où là, on n'avait même pas une incarnation par des acteurs, puisque c'était des vrais trans.
Il y a un
spectacle qui m'avait bouleversé, où je m'étais dit, finalement, ce qui n'est pas du théâtre a priori peut amener le théâtre. Mais l'autre chose que je voulais dire, juste pour conclure, c'est ce que disait Caroline sur l'aspect, évidemment, on peut se projeter, pas seulement sur la religion catholique, mais sur les interdits qu'imposent toutes les religions aujourd'hui. Alors, on pense évidemment en France à la manif pour tous, et puis au discours qu'il peut y avoir encore sur l'avortement. Mais il y a donc cet intérêt à faire cette liaison. Et il y a aussi cette question qui est quand même que je trouve intéressante aussi qui est posée, c'est l'histoire du cas de conscience au début. C'est-à-dire que cet abbé qui se dit finalement...
Vous êtes le courrier des lecteurs.
Lui
et là...
est peut-être en train de bouger dans sa tête en se disant là vraiment je ne sais pas quoi répondre. Et ça c'est assez intéressant pour montrer que les religions peuvent quand même un peu évoluer. Donc c'est voilà.
Sachant que la revue qu'il avait créée, c'était pour favoriser la natalité, pour encourager la natalité.
Il faut renvoyer aussi donc au livre de Martine Sèvres-Grand qui regroupe toutes ces lettres et qui évidemment en fait une proposition d'analyse historique. Le spectacle lui s'appelle L'amour en toutes lettres, question sur la sexualité à l'abbé Violet. On peut le, dans cette mise en scène donc de Didier Ruiz, on peut le voir jusqu'au 22 mai au Théâtre de Belleville à Paris. Puis on pourra le voir au Norville le 25 mai dans le Festival de jour et nuit, ainsi qu'à Arpajon le 31 mai dans le cadre de ce même festival. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint comme chaque soir pour nous rappeler d'abord la question du jeu de vendredi et sa réponse.
La question était: quel film réalisé par une cinéaste française est inspiré du premier roman d'Édouard Louis? Et la réponse était Marvin ou La Belle Éducation.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Gatsby le Magnifique. C'est vendredi soir, il y a deux soirs, hein, d'ailleurs jeudi et vendredi soir à la Maison de la Radio au studio Temps 104. Une adaptation donc de Gatsby avec Sofiane Zermani et Rebecca Marder, Pascal Rénéric et de la musique en live. Hein, vous pouvez réserver sur le site maisondelaradio.fr. Et pour gagner des places, quelle est la question?
Qui incarnait Gatsby le Magnifique dans une adaptation cinématographique datée de 1974?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, 19h, dispute musique avec Emmanuel Giuliani, Emmanuel Dupuis et Laurent Burry. Un autre programme, un DVD, celui d'Orphée Eurydice de Gluck, dirigé par Michele Mariotti avec une mise en scène John Full James et une chorégraphie Ophé Schechter. Un CD, Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau, un autre CD, Inland de Vanessa Wagner et un coup de cœur d'Emmanuel Giuliani pour un autre CD, Janáček et Ligeti, les quartettes.